Et 9h10 à Washington, à tout à l'heure, Edmond Sadaka, tout de suite, c'est le rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec vous, Marie Normand, bonjour.
Bonjour à tous.
Le sud d'Haïti tente toujours de se relever 6 mois après le cyclone Matthew. La ville de Jérémy veut avant tout relancer la production agricole. On en parlera avec le journaliste haïtien Godson Pierre.
À la une également le Mexique, ses plages, ses temples mayas et sa corruption. Des militants ont mis au point, vous l'entendrez, un corruptour, un tour de la corruption en bus dans Mexico pour sensibiliser les habitants au gâchis d'argent public.
Le plus triste pour notre pays, c'est qu'il est extrêmement touché par la corruption. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et si nous nous consacrions plus à éduquer les gens et un peu moins à voler de l'argent, ça pourrait être le pays le plus merveilleux du monde.
Un reportage de Patrick John Buff dans quelques minutes.
En Guyane, une première manifestation anti-blocage. Après 3 semaines de mouvement social, certains barrages commencent à susciter le mécontentement de la population.
Jérémy, 92.7 FM.
Et tout de suite, direction Haïti.
Oui, pour retrouver Godson Pierre, journaliste haïtien responsable du site d'information alterpresse.org. Situation toujours très compliquée, on le sait, pour les sinistrés de Matthew, l'ouragan qui a ravagé Haïti il y a 6 mois maintenant. Aujourd'hui, Godson, la ville de Jérémy souhaite avant tout relancer de toute urgence ses moyens de production agricole.
La mairie de Jérémy au sud-ouest d'Haïti appelle en effet à des mesures de relance de la production agricole afin de pallier au problème de manque d'aliments disponibles pour les populations affectées. Pour que la vie reprenne dans cette commune, il faudrait relancer l'agriculture. Les techniciens et les agronomes doivent accompagner les paysans mentalement et physiquement, déclare à Alter Press la maire adjointe. Des semences doivent être distribuées aux agriculteurs, préconise Silnata Pierre. Plus de 6 mois après le passage de l'ouragan Matthew, la population de la commune de Jérémy est toujours aux abois selon les témoignages recueillis. Le passage du cyclone a été suivi d'une sécheresse à Jérémy, ce qui a contribué à compromettre tout effort de production et entraîner les familles dans une situation d'insécurité alimentaire, souligne la maire adjointe. Lors d'une visite effectuée dans la région le week-end écoulé, le président Jovenel Moïse a promis d'améliorer la situation de la population. Suite à une série de missions dans les zones affectées par le cyclone, l'Université d'État d'Haïti a pour sa part relevé une gestion inappropriée des conséquences de la catastrophe.
Sujet Godson, toujours développé est sur alterpresse.org. L'enquête est en cours pour retrouver ceux qui ont lancé des pierres sur le cortège du président Jovenel Moïse samedi. Ce dernier parle d'ailleurs d'un acte terroriste.
Il s'agit d'une investigation minutieuse et rigoureuse afin de trouver les auteurs de ces actes et de les déférer par devant les autorités judiciaires. Les incidents qui se sont produits vendredi dernier sont énergiquement condamnés par le président Jovenel Moïse. C'est une menace grave contre la paix publique et la sûreté de l'État, souligne-t-il. Des protestations et agitations se produisent périodiquement depuis plusieurs mois à l'Arcaillet suite à la décision prise en juillet 2015 par l'ancien président Michel Martelly de séparer l'Arcaillet de Mont-Rouy, une localité abritant des hôtels de plage élevés au rang de commune. Jovenel Moïse dit s'engager à trouver une solution définitive et satisfaisante à la crise.
Et puis le gouvernement haïtien veut mieux prendre en compte les problèmes mentaux, Godson.
C'est du moins l'orientation annoncée par la ministre de la Santé qui souligne la nécessité d'aborder le problème de la dépression parce que, dit-elle, toutes les couches de la population sont concernées. Docteur Greta Roy-Clément encourage l'intégration de la santé mentale au niveau des soins primaires des différentes institutions sanitaires du pays. La question de la santé mentale devra apparaître dans le plan d'action 2017-2018 que le secteur santé est en train de finaliser, annonce-t-elle.
Merci Godson Pierre, responsable du site haïtien d'information alterpresse.org.
Pile 8h15 à Chicago, c'est le buzz du jour.
Ah, hey,
Est-ce que vous entendez? Ce sont les cris d'un homme d'origine asiatique tiré de son siège dans un avion, littéralement traîné au sol par les bras, le visage en sang, par des agents de sécurité.
Et sa faute, Charlotte, est bien avoir refusé de céder sa place, dûment payée pourtant. Mais le vol était surbooké, trop de passagers, pas assez de place, alors faute de volontaires. Et bien la compagnie United Airlines a décidé de désigner d'office des passagers à débarquer, donc cet homme récalcitrant, diront ensuite les agents de sécurité. La vidéo a été mise en ligne par d'autres passagers horrifiés, on l'entend d'ailleurs, de la violence de la scène. Le PDG de United Airlines, Oscar Munoz, s'excuse juste d'avoir dû ce jour-là replacer ses clients ailleurs, fin de citation, sous-entendu d'avoir dû simplement appliquer le protocole. L'incident est qualifié en tout cas de raciste par beaucoup d'internautes. Il a suscité un flux énorme sur Weibo, le Twitter chinois, plus de 120 millions de vues depuis ce week-end. Certains appellent même au boycott de la compagnie.
Allez, on passe à la revue de presse des Amériques.
Et Harim Lipold nous a rejoint pour en parler d'un autre scandale très commenté par la presse américaine. Bonjour Harim.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous.
Et ce scandale, c'est la démission du gouverneur de l'Alabama aux États-Unis, terrassé par une histoire d'adultère.
Oui, c'est à la une de presque tous les journaux, menacé d'une procédure de destitution. Robert Bentley, 74 ans, honorable dermatologue et bénévole d'église reconverti en politique, a finalement lâché les rênes de cet État ultra-conservateur. La pression de l'opinion publique et des médias était devenue insupportable, écrit le New York Times. Le gouverneur avait demandé à certains employés de l'aider à cacher la liaison avec sa plus proche collaboratrice, Rebecca Caldwell.
Et l'affaire ne date pas d'hier, elle a éclaté au grand jour l'année dernière.
Et cela, Marie, grâce à l'enregistrement d'une conversation intime entre les deux amants, un enregistrement effectué à leur insu par l'épouse du gouverneur qui commençait à avoir des doutes sur la fidélité de son mari. Finalement, elle a eu raison. Un scandale qui a fait beaucoup de vagues dans un pays qui reste en grande partie très puritain. Tout le monde s'est moqué de nous, écrit le Press Register, le journal local. Même le Mississippi s'est tordu de rire. Mais bon, nous avons aussi une raison d'être fiers, car les garde-fous de notre système ont bien fonctionné. Selon la presse locale, ce scandale avait un parfum nixonien, car comme l'ancien président, également contraint à la démission, le gouverneur Bentley a utilisé les forces de l'ordre et les ressources du gouvernement pour tenter d'étouffer l'affaire.
Et en vain, merci Harim Lipold. La presse nord-américaine affiche aussi sa fierté aujourd'hui, Harim, après la distribution des prix Pulitzer.
Eh oui, les prestigieux prix de journalisme américain récompensent cette année notamment plusieurs articles sous la campagne électorale aux États-Unis. C'était l'année dernière. David Farnthold du Washington Post, par exemple, a remporté le prix du reportage national pour une enquête sur les affirmations trompeuses de Donald Trump concernant ses dons à des œuvres caritatives. Le comité Pulitzer a loué un modèle de journalisme transparent. En fait, le journaliste a inventé un nouveau mode d'investigation en demandant l'aide de ses abonnés sur Twitter pour retrouver la trace des dons de Donald Trump. Eh bien, le New York Times repart également avec un prix, Marie, celui du reportage international. Le journal s'est penché, en fait, sur les efforts de la Russie d'étendre son influence à l'étranger.
Au Chili maintenant, une journée de manifestation prévue aujourd'hui.
Oui, les étudiants chiliens ne sont pas du tout contents de la réforme de l'éducation lancée par la présidente socialiste Michelle Bachelet. Une réforme jugée très en retrait par rapport aux promesses de la présidente. Du coup, la Confédération des étudiants de Chili a appelé à une grande marche à Santiago. Aujourd'hui même, la capitale, selon le site Ahora Noticias, les étudiants réclament notamment l'abrogation de tout type d'enseignement privé et donc payant. Ils demandent aussi le droit à l'inscription gratuite dans les universités.
Mais selon le chercheur Paul Berchenko, cette réforme est impossible à mettre en place. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup d'institutions comme l'Église, très impliquées dans l'enseignement, ont tout intérêt à conserver l'ancien système. Même chose pour les banques. Le Chili où Ricardo Lagos, l'ancien président, a finalement retiré sa candidature à la présidentielle du mois de novembre. L'instance dirigeante de son parti, le Parti Socialiste, a préféré soutenir un autre candidat. 10h19 à Brasilia. Brasilia, autre pays où l'éducation est en crise. C'est le Brésil. L'université de l'État de Rio de Janeiro vient de rouvrir ses portes après 8 mois de fermeture.
Oui, et c'est donc à la une du journal O Globo. L'État de Rio de Janeiro, fortement endetté, voire quasiment en faillite, n'avait tout simplement plus les moyens d'entretenir cette université, l'une des plus prestigieuses du pays. Hier, lundi, professeurs et étudiants sont donc retournés en classe, mais sans enthousiasme, surtout de la part des enseignants qui n'ont pas encore reçu le 13e mois de salaire de 2016, ni celui de février et de mars de cette année. Certains professeurs ont d'ailleurs décidé de maintenir leur grève, mais cette rentrée s'annonce aussi difficile pour les étudiants, dont beaucoup sont privés de leur bourse que l'État ne peut plus leur offrir. Du coup, certains sont obligés de sécher les cours car ils n'ont plus les moyens de se payer le bus pour aller à l'université, écrit au Globo.
Et puis, autre information à retenir dans la presse brésilienne, Arim Lipol, c'est l'ancien président Lula qui aurait reçu l'équivalent de presque 4 millions d'euros de pots de vin de l'entreprise Odebrecht.
Oui, c'est ce qu'affirme l'ancien patron de l'entreprise Odebrecht. Il devrait donc le savoir. Dans une audition devant le juge d'instruction, l'argent aurait été versé en liquide, selon Marcel Odebrecht, qui a été arrêté en 2015. C'était dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de corruption Petrobras. Marcel Odebrecht est actuellement en train de passer aux aveux.
Arim Lipol, votre revue de presse des Amériques, à retrouver à relire comme chaque jour sur RFI.fr. Au Mexique, la corruption est un véritable fléau. Elle coûterait au pays environ 10% de son produit intérieur brut.
Et le chiffre est impressionnant. Et pour dénoncer la situation, les Mexicains ont eu l'idée d'organiser dans la capitale Mexico un corruptour, un tour de la corruption. Donc, c'est gratuit même. Et notre correspondant Patrick John Buff a pris place dans ce bus touristique.
Primera parada, Casa Blanca.
Oh, mais combien peut coûter cette baraque? Pas moins de 86 millions de pesos. Et c'est là que vivait Enrique Peña Nieto.
Le Corruptour n'a rien d'un circuit touristique. Il offre un parcours de la corruption au Mexique en passant en bus par les sites les plus emblématiques de ce fléau qui ronge le pays. À cet égard, la première étape va droit au but. Elle conduit les passagers à la Casa Blanca, la Maison Blanche. Plutôt qu'acheter, cette résidence luxueuse de 7 millions de dollars avait été remise à l'épouse du président Peña Nieto par une entreprise ayant obtenu du gouvernement des contrats juteux, ce qui avait provoqué un grand scandale au début du mandat du chef de l'État. Et c'est bien là l'objectif de ce tour, rappeler les cas de corruption les plus retentissants, comme le souligne l'une de ses organisatrices, Patricia Obeso.
On croyait qu'il fallait aussi proposer une manière divertissante, créative, ludique de parler de la corruption. Parce que souvent, on pense que tout le monde connaît le thème ou sait comment se construisent les réseaux de corruption, mais je crois que ce n'est pas vrai. Il nous manque beaucoup d'informations, au-delà de celles que publient les médias. On croyait justement qu'avec un corruptour, on pourrait emmener les gens aux endroits où ont eu lieu ces scandales de corruption et que ça aurait beaucoup plus d'impact que seulement d'en parler.
À chaque fois, une trentaine de Mexicains sont ainsi conviés à monter dans un vieux bus transformé de manière à laisser à découvert sa partie centrale, ce qui leur permet de voir 10 hauts lieux de la corruption et d'écouter des commentaires audio comme celui concernant la stèle de lumière, un monument dont les dépassements budgétaires durant la construction sont un exemple lumineux du gaspillage des deniers publics.
On raconte qu'1,3 milliard de pesos provenant de l'argent des Mexicains ont été dépensés. Vous savez qu'avec cette somme, on aurait pu construire 4 hôpitaux généraux.
Ce véhicule anticorruption passe notamment devant le ministère de l'Intérieur, responsable de l'évasion du narcotrafiquant El Chapo Guzmán, devant la toute-puissante chaîne de TV Televisa, ou devant le bâtiment de la Sécurité sociale, où les médicaments qu'achète cette institution le sont à un prix gonflé artificiellement. Ce sont là autant d'exemples qui attristent les participants à ce tour, car à l'instar de Consuelo Martinez, ils savent quelles en sont les conséquences.
Le plus triste pour notre pays, c'est qu'il est extrêmement touché par la corruption. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est bien dommage, car on a un pays merveilleux, plein de culture, plein de tas de choses. Et si nous nous consacrions plus à éduquer éduquer les gens et un peu moins à voler de l'argent, ça pourrait être le pays le plus merveilleux du monde.
El país más maravilloso de todo el mundo.
Depuis son lancement en février dernier, le Corruptour a rencontré un tel succès qu'il va être prolongé jusqu'à fin mai. Pour Pablo Galicia, qui participe à cette initiative comme volontaire, il s'agit de sensibiliser un maximum de Mexicains qui vivent tous la corruption au quotidien.
Il me semble que c'est une initiative très forte, qu'elle a été très bien reçue et qu'il fallait la faire pour sensibiliser les gens sur ces thèmes. Car s'il est vrai que les gens connaissent ces cas de corruption, il manquait en revanche une nouvelle façon de les relater pour faire en sorte qu'ils puissent agir contre ces pratiques.
Et pour les Mexicains, c'est là toute la difficulté. Refuser d'être partie prenante à cette corruption érigée par le pouvoir en un système qui a obligé à faire du pot de vin ou du bakchiche un mode de vie. Patrick John Buff, Mexico RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et bonjour Julie Straboni.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, la Guyane qui paraît de plus en plus coupée en deux, Julie.
Même si le mouvement reste populaire, des voix s'élèvent qui pensent qu'il sera difficile d'obtenir plus de l'État français. C'est le cas de Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane, qui trouve les mesures du gouvernement insuffisantes, mais souhaite tout de même les mettre en application rapidement. Olivier Damon.
Pour Rodolphe Alexandre, la Guyane a déjà obtenu deux victoires grâce à cette mobilisation. D'abord, une oreille désormais plus attentive de l'État pour les futures négociations. Puis, et surtout, des moyens financiers permettant de relancer la commande publique.
Il s'agit pour nous de 104 millions d'investissements, pouvant enclencher immédiatement 270 millions de retours en termes d'investissement. Deux collèges, un lycée, trois casernes de sapeurs-pompiers, tous ces points sont préparés par mes services.
Mais pour lancer tous ces projets, la collectivité territoriale doit voter son budget. Et le temps presse, prévient Rodolphe Alexandre.
Il est désormais impératif et urgent que nous puissions procéder au vote du budget. Faute de quoi, la collectivité sera dans l'incapacité de fonctionner, d'investir à partir de la date limite et réglementaire que prévoit la Constitution.
On comprend donc que l'activité doit reprendre au plus vite, dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau gouvernement, écrit Rodolphe Alexandre au collectif. Pour autant, le président de la CTG ne demande pas clairement la levée des barrages.
Il serait tout de même extrêmement regrettable que ce que nous avons obtenu et qui, encore une fois, est insuffisant, ne nous permette plus de combler les dégâts occasionnés à notre économie par le conflit lui-même, si celui devait perdurer.
Pour conclure, Rodolphe Alexandre dit se tenir à la disposition du collectif pour une réunion de travail. L'objectif, définir ensemble une nouvelle stratégie pour cette mobilisation.
Quelle autre forme pourrait prendre la résistance? Elle reste à définir en Guyane. Mais deux manifestations sont prévues aujourd'hui et demain pour exiger la libre circulation et surtout la reprise de l'activité économique. Pour rappel, les grandes grèves de 2009 avaient entraîné la fermeture de nombreuses entreprises dans les trois départements français d'Amérique. Et là, ces entrepreneurs de Saint-Laurent-du-Maroni perdent patience.
Nous aujourd'hui, on veut juste qu'on soit entendu. Parce que le mouvement, il a pris une autre ampleur. Là, on fait des blocages spécifiques, ok, mais laisser tourner l'économie, laisser les jeunes aller à l'école.
Ce n'est pas pour faire une confrontation avec les 500 frères, les gens qui ont bougé ça, mais il faut qu'ils voient qu'aujourd'hui, on souffre. On est des petites sociétés, on a plein de trucs à payer.
Nous, on ne peut pas continuer à ne pas avoir de travail, je répète, pour garder les emplois, pour que... Tout ça, elle va aggraver encore le chômage existant en Guyane française.
Des propos recueillis par Jean-Gilles Assar et puis les trois pêcheurs guadeloupéens arrêtés hier par les gardes-côtes d'Antigua ont été libérés. Les autorités de Saint-John les accusaient de pêche illégale, ce qu'ils contestent. C'est qu'un contentieux oppose depuis des années la Guadeloupe à Antigua sur les délimitations des eaux territoriales et des zones économiques exclusives. À demain.
Merci Julie Straboni et à demain.
Merci également à Baptiste Collion à la réalisation. Aujourd'hui, la Mamba Negra jusqu'au prochain point sur l'actualité, les nouvelles coqueluches de la musique colombienne. Et ce titre, El Sabor de la Guayaba. Bonne journée à vous.
À demain.
Para trabajar. Dans Jeune Afrique cette semaine, Patrice Talon peut-il vraiment changer le Bénin? Relance de l'économie, réforme des institutions, priorité sociale. Le président est sur tous les fronts, mais le chantier s'avère bien plus complexe que prévu. Dossier spécial 20 pages. Cameroun, coupure d'État. Pourquoi et comment l'État a décidé de priver d'Internet les provinces anglophones? Enquête. Jeune Afrique, l'hebdomadaire qui donne du sens à l'actualité africaine. Numéro double, en vente 2 semaines chez votre marchand de journaux. Disponible également en version digitale.